France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Bastelica Fèche, quand les Corses dénoncent les barbouzes. Dans les années 70, sur l'île de Beauté, autonomistes et anti-autonomistes se livrent une guerre sans merci. Mais qui se souvient du groupe Francia ? Une émanation du SAC, le fameux service d'action civique qui fait la guerre aux autonomistes en utilisant les mêmes armes que le plasticage. Ils s'en prennent d'abord au FLNC, puis à l'UPC, l'Union du Peuple Corse, un mouvement qui se bat dans la légalité. Et puis il y a cette branche, le collectif nationaliste de Bastelica, un petit groupe qui sera au cœur de notre affaire aujourd'hui. Car c'est dans ce village de Corse du Sud, Bastelica, que vont s'affronter les militants nationalistes et leurs adversaires. Une lutte qui connaît son acmé en janvier 80, avec l'enlèvement de 3 hommes de Francia par le collectif nationaliste de Bastelica. Un acte qui pose sur la table une question centrale. Y a-t-il des barbouzes en Corse? Et si oui, qui les guide et qui les soutient? Notre invité aujourd'hui, Pierre Poggioli, homme politique, écrivain corse et dirigeant historique du mouvement nationaliste corse. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Marjolaine Corr, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
L'air est plutôt frais et humide en ce dimanche 6 janvier dans le village de Bastelica. Une fine couche de neige recouvre le paysage. Sur la petite route qui vient d'Ajaccio, roule une Ford belge. À l'intérieur, 3 hommes. Dans le coffre, des armes. Ils vont, ces hommes, disent-ils, chasser le gibier. Pourtant, l'un d'eux est bien amoché. Il lui manque une jambe, qu'il a perdue dans un attentat un an auparavant. Il s'aide d'une béquille pour se déplacer. Pas très pratique pour la chasse. La bourgade est calme lorsque cette voiture la traverse. Mais elle roule lentement, comme si elle cherchait quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. À la sortie du village, le conducteur pile. Une voiture en travers de la route l'empêche de passer. C'est un guet-apens. Des hommes les interceptent et sans ménagement les conduisent dans une bergerie. Les voilà prisonniers.
Cette voiture, c'est celle des 3 hommes interceptés puis séquestrés par les autonomistes corses, dont un groupe dur qui s'intitule Collectif Nationaliste de Bastelica. Pour eux, ces hommes représentent un commando qui s'était fixé pour but l'enlèvement ou l'élimination physique d'un autonomiste connu. Dans un communiqué, ils ont fait savoir la nuit dernière qu'ils produiraient demain les preuves de leurs accusations et les aveux de ces 3 hommes qui prétendent, eux, quand nous les avons rencontrés, être venus à la chasse.
Allaient-ils vraiment à la chasse ? Ou bien à une chasse à l'homme. Dans le coffre, les ravisseurs trouvent en effet un Smith & Wesson 357 Magnum, un P-38 spécial russe, une carabine Remington 7 mm avec lunettes à infrarouge, un Herstal calibre 12, une paire de gants en soie. Drôle d'attirail pour des chasseurs. Ceux qui ont organisé ce guet-apens sont des autonomistes qui se revendiquent du collectif nationaliste Bastelica, une branche dure du mouvement Union du Peuple Corse. Ils ont été prévenus de la visite armée du trio. Selon leurs informations, ces 3-là prévoyaient plutôt d'enlever l'un des leurs. Dans la bergerie, les 3 hommes sont interrogés sans ménagement. Celui à qui il manque une jambe, c'est le chef, le commandant Pierre Bertolini, ancien inspecteur départemental des services de secours, connu pour son appartenance au groupe Francia. Avec lui, Alain Oliel, un armurier d'Ajaccio et un dernier larron dont on sait peu de choses, si ce n'est qu'on l'appelle Monsieur Leonelli. Très vite, les nationalistes préviennent les gendarmes. Nous détenons 3 barbouzes qui voulaient attenter à la vie de l'un de nos militants, disent-ils. À ce stade, ils n'ont pas encore décidé de ce qu'ils souhaitent faire de leurs détenus. Après l'interrogatoire dans la bergerie, ils les conduisent dans les locaux du foyer de montagne collé à la mairie où, de nouveau, ils sont passés à tabac. Étendus sur des lits de fortune, entravés aux pieds, les 3 prisonniers font face à celui qu'ils étaient venus enlever ou éliminer, qui sait. Marcel Lorenzoni, un militant nationaliste et animateur du collectif de Bastelica. Entouré de ses nombreux soutiens, il est bien décidé à faire éclater la vérité. Il existe en Corse des barbouzes. Dans les poches d'Alain Auliel, l'armurier, on trouve d'ailleurs deux cartes. L'une du RPR, l'autre du SAC. Et Auliel ne s'en cache pas. Il déclare que s'il a une carte du service d'action civique, c'est parce qu'il appartient à Francia, une émanation locale. Les autonomistes obtiennent alors, et pour la première fois, la preuve du lien entre l'officine de Jacques Foccart et ce groupuscule anti-autonomiste qui sévit sur l'île. Une première nuit s'écoule. Autour de l'annexe de la mairie où se trouvent les prisonniers, les autonomistes affluent partout. Armés, en treillis, on dirait qu'une battue géante de sangliers s'apprête à avoir lieu. Mais à la place des carabines, certains portent des pistolets passés dans la ceinture, au vu de tous, comme s'il était naturel de se balader au village avec son arme. Les forces de l'ordre, elles aussi, sont arrivées en nombre, tout comme les journalistes. Ils ont même accès aux otages, dont le commandant Bertolini qui leur parle.
Conditions physiques bonnes. Personnellement, je ne mets pas à me plaindre du traitement qui m'a été fait. Conditions morales, elles sont les conditions morales de tout otage.
Vous vous considérez comme tel?
Je suis aux mains d'un certain nombre de personnes.
Quelles sont, selon vous, les raisons de cette action?
Probablement une méprise, parce que je suis venu à Bastelica pour y passer une heure et accompagner deux personnes qui venaient à la chasse.
Lorsque les journalistes évoquent avec lui la possibilité d'une couverture administrative ou politique qui aurait permis à Francia de mener ses actions en toute impunité en Corse, Bertolini fait mine de s'insurger. D'ailleurs, affirme-t-il, depuis son amputation il y a 13 mois, Francia n'existe plus réellement. Mais les heures défilent en ce lundi 7 janvier. Et entouré de tous ces hommes en armes postés dans le foyer, mais aussi dehors, autour de Brasero, avec le bruit de l'hélicoptère de la gendarmerie qui survole le village, la tension est permanente depuis la veille. Alors, après 24 heures de détention, il craque. Oui, il est bien le chef de Francia. Oui, il a ordonné les nombreux attentats contre les séparatistes jusqu'en décembre 1978. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 heures du matin, Bertolini est séparé de ses camarades d'infortune. Le voilà embarqué pour une destination inconnue. Ses geôliers décident de l'emmener dans une cache plus sûre, même si la zone est cernée par les CRS et les gendarmes venus de la métropole. Au cœur de la nuit, il est embarqué pour le Maquis. Quelques heures plus tard, Alain Auliel est lui aussi déplacé, mais pour une autre destination. Reste ce mystérieux monsieur Leonelli. Et là, coup de théâtre, on découvre qu'il n'est pas un barbouze comme les autres, mais un militant du FLNC infiltré dans Francia depuis décembre. Une immersion qui lui a permis à la fois d'avertir ses collègues de l'action attentée à Bastelica contre Lorenzoni, mais aussi d'en savoir plus sur les soutiens de Francia. Vers 6 heures ce matin, le jeune agent double enregistre une bande où il met en cause des personnalités publiques qu'il désigne comme les relais et même les véritables chefs des réseaux terroristes anti-Corse. Parmi eux, il cite un inspecteur de police de la sûreté urbaine d'Ajaccio et surtout, Dominique Renucci, le directeur de cabinet du préfet de région. Ce serait lui qui donnerait ses ordres au commandant Bertolini. Voilà la raison pour laquelle le collectif de Bastelica a préféré se faire justice lui-même. Pour être sûr que l'affaire ne soit pas étouffée, il décide d'organiser à 15h ce mardi une conférence de presse. Mais autour, la pression s'accentue. Vers 9h30, une centaine de gendarmes supplémentaires prennent position sous la protection de 3 automitrailleuses, un hélicoptère Puma et un avion léger survolent en permanence le village. Les quelques 700 habitants vivent en état de siège. Dans ces conditions, les militants décalent leur conférence de presse à 10h30, avec le peu de journalistes présents. Ils leur transmettent l'organigramme du mouvement Francia et assurent qu'en aucun cas la vie des otages ne sera mise en danger. D'ailleurs, ils sont bien logés à l'abri de l'agitation des forces de l'ordre. Mais ces révélations encombrantes ne sont pas du goût de tous, particulièrement du côté du RPR, où le député local Jean Bozzi cherche à tout prix à mettre de la distance entre son parti et les actions de Francia.
Monsieur Bozzi, il y a quand même aussi du contre-terrorisme en Corse. Le groupe Francia, c'est une chose qui existe. Là, dans cette affaire, on a entendu parler à nouveau
incontestablement, du service d'action civique. Incontestable. S'il est absolument... ça relève de la mauvaise littérature que de parler de police parallèle, on peut, hélas, parler de contre-terrorisme. Ce qu'il faut bien appeler...
Bien aidé par quelqu'un, ce contre-terrorisme.
Face, absolument pas. Face à... C'est une génération spontanée. Vous savez, nous sommes en Corse, et les Corses ne tolèrent pas longtemps les équivoques, et tolèrent encore moins qu'on les agresse, et qu'ils ne puissent pas répliquer. Devant ce qu'il faut bien appeler, à une certaine époque, la carence des pouvoirs publics, la carence de la police, qui sans doute n'avait pas les moyens, peut-être aussi pas les consignes de fermeté nécessaires, les attentats se multipliaient, la Corse était en grand péril de basculer dans je ne sais quelle aventure, et il y a un certain nombre de gens, d'anciens militaires notamment, de toutes opinions, je peux vous le garantir, qui n'ont pas pris les armes, mais qui ont fait des contre-plastiquages. C'était une réaction déplorable, mais il faut comprendre cette motivation.
On parle désormais de 1500 gendarmes et CRS déployés autour de Bastelica. Le village est devenu une poudrière. À 13h30, le collectif nationaliste publie un communiqué en trois points. 1. Il récuse comme interlocuteur le chef du cabinet du préfet de région, Dominique Renucci. 2. Il exige que l'intégralité de sa conférence de presse du matin soit diffusée sur les ondes et dans la presse et qu'il puisse tenir un nouveau point à 15h. 3. Il réclame la venue d'un juge d'instruction et du procureur de la République d'Ajaccio, ainsi que le retrait des forces de l'ordre. À ces seules conditions, ils remettront leurs otages à la justice. Réponse du préfet Claude Gaïcaze, on ne négocie pas avec des racketteurs et des preneurs d'otages. L'après-midi dans le village, les communications sont coupées. Sentant le vent tourner, les nationalistes s'éparpillent dans le maquis. Une fouille minutieuse de chaque maison vient de commencer. Devant ce spectacle désolant, le maire de Bastelica choisit de démissionner pour montrer son désaccord avec le préfet. Trois maisons où sont restés des hommes armés sont encerclées. La tension est à son comble. Mais finalement, sans coup de feu ni violence, 15 hommes sont interpellés. Mais aucune trace des otages. Non, ils se sont envolés. Les réseaux autonomistes ce jour-là ont montré qu'ils pouvaient mobiliser plusieurs centaines d'hommes. Alors une troisième nuit de tension commence à Bastelica. Quand minuit passe, une trentaine de nationalistes qui ont échappé au ratissage des forces de l'ordre se mettent en route. Au volant de 7 voitures, ils parviennent à forcer un poste de contrôle situé 15 km en contrebas. Prise par surprise, la police ne réplique pas. Histoire d'éviter le bain de sang, probablement. Seule une voiture est interceptée. Les 6 autres foncent vers Ajaccio et font irruption rue Fèche, à une centaine de mètres de la préfecture. Dans cette rue, un hôtel 3 étoiles voit débarquer 30 militants à visage découvert qui, dans le plus grand calme, prennent possession des lieux et retiennent les clients. Il est 4h du matin. À 6h, l'hôtel est encerclé par les policiers, comme le raconte le journaliste Bernard Pradino sur Antenne 2.
Cette nuit même, un groupe donc d'autonomistes est descendu à Ajaccio et s'est retranché dans l'hôtel Fèche. C'est-à-dire que la situation est tout à fait inconfortable maintenant pour tout le monde, puisque la police attend dehors, les autonomistes sont retranchés à l'intérieur, il y a des négociations dont on ne connaît que peu de choses pour l'instant, il y a des propositions de médiation, par exemple M. Simeoni lui-même de Bastia a dit « je voudrais bien intervenir pour essayer de régler le problème », tout le monde a envie que la situation se décante, mais le préfet n'a pas l'intention de céder, et il est bien possible que dans l'après-midi les choses évoluent, mais pour l'instant, des deux côtés, tout le monde attend.
Sur la façade de l'hôtel, tous les volets sont clos. Un drapeau à la tête de mort est hissé à l'un des 5 étages. Dans la foule qui observe la scène, derrière les cordons de sécurité, on applaudit. Il y aurait une vingtaine de clients retenus, mais on ne sait pas si Bertolini et Oliel sont dans les murs. 2 clients sont rapidement libérés. Le premier est un journaliste de l'AFP qui logeait ici et dont les comptes rendus ne sont pas du goût des autonomistes. Le second est un Corse, le seul originaire de l'île. Il est porteur d'un message de la part des clients de l'hôtel. Il réclame le rétablissement de la ligne téléphonique coupée à 6h30 pour qu'ils puissent rassurer leurs proches. Refus. Et de nouveau, les nationalistes réclament une conférence de presse pour évoquer l'existence de barbouzes anti-autonomistes sur l'île. Encore un refus. L'après-midi, puis tard dans la soirée, des intermédiaires essaient de jouer les médiateurs. Le maire d'Ajaccio, Charles Ornano, puis 2 responsables des FDSEA locales, les fédérations d'agriculteurs et l'évêque de l'église de Corse. Mais dans ce défilé, il y a un absent, Edmond Simeoni, que les nationalistes réclament pour conduire la médiation, mais cela, les autorités également le refusent. L'homme avait été incarcéré pour sa participation à une action coup de poing à Aléria, qui avait conduit à la mort de deux CRS. De ce fait, il est déclaré non grata, et la situation devient inextricable. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le groupe Francia en Corse.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
La nuit se couche sur ce quatrième jour de prise d'otage dans un bouillonnement sourd. Ce mercredi 9 janvier, à Ajaccio, les militants sont toujours repliés dans l'hôtel Fesch avec les clients qu'ils retiennent. Ce soir-là, la tension est palpable. Une quarantaine d'organisations, partis politiques de gauche, syndicats et organisations professionnelles signent un communiqué commun pour réclamer le retrait des forces de police et l'ouverture de véritables négociations. En cas d'affrontement, conclut le texte, le pouvoir porterait la responsabilité de la situation. Mais en soirée, des pierres et des cocktails Molotov pleuvent à nouveau sur les CRS, qui répliquent avec des grenades lacrymogènes. Les troupes ont froid, n'ont pas mangé. Elles sont en poste depuis 5 heures du matin et ne savent pas quand arrivera la relève. Quand soudain, tout dégénère.
23 heures, alors que les CRS repoussent un groupe de manifestants. L'un d'eux vide le chargeur de son pistolet, touche 3 CRS, dont un mortellement. Et dans la panique qui s'ensuit, 3 jeunes femmes qui voulaient fuir les affrontements à bord de leur voiture sont atteintes par les balles des CRS. L'une en mourra, c'est la fille de l'ancien directeur de la santé d'Ajaccio. Une autre a reçu une balle dans la tête, elle est dans un état évidemment très grave. Et enfin, un peu plus tard, les gendarmes mobiles tiraient sur une autre voiture, le jeune conducteur était tué sur le coup.
Petit matin blême et gueule de bois, la Corse est atterrée. 3 morts et 6 blessés graves. À l'hôpital, les journalistes récoltent des témoignages accablants pour les forces de l'ordre. il devient évident que leurs nerfs ont lâché. Les jeunes femmes touchées n'avaient aucun rapport avec les émeutes en cours. Les tirs n'ont pas été précédés de sommations. Quant aux deux jeunes hommes, deux jockeys qui venaient de fêter l'obtention du permis de l'un d'eux, la première version selon laquelle ils auraient tenté de forcer le barrage ne résiste pas au témoignage. Pire encore, toutes les victimes ont été atteintes dans le dos. Peu après, on découvre que celui qui a tiré sur les trois femmes est un jeune contractuel n'ayant pratiquement aucune expérience. L'attitude des forces de police est vilipendée, le préfet mis en cause. Alors, c'est une nouvelle journée de plomb qui commence à Ajaccio. En réponse à cette nuit tragique, le gouvernement envoie 1500 hommes de plus pour ceinturer la Corse. Après avoir essayé vainement de négocier l'envoi d'une délégation auprès des autonomistes retranchés à l'intérieur de l'hôtel, le collectif des 44 organisations déclare, en empêchant la participation du docteur Edmond Simeoni, le préfet de région a fait échouer la mission. Et c'est l'annonce d'une grève générale sur l'île, intitulée « Opération Isola Morte ». À Bastia, à Corte, des manifestations éclatent. Désormais, l'organisation réclame le retrait du dispositif répressif mis en place sur l'île et la démission carrément du préfet de région. Malgré le bilan désastreux de ces dernières heures, à Paris, le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, refuse de prendre en compte la dimension politique des événements.
Il n'y a jamais eu en France, il n'y aura jamais en France de tractation avec les preneurs d'otages qui sont des criminels de droit commun. Il ne s'agit pas d'une affaire politique, il s'agit d'une affaire de droit commun. Je m'empresse de dire que personne ne confond l'ensemble de la population des deux départements corse avec ce petit groupe des garés qui, refusant les lois de la démocratie, tente d'imposer par la violence ses idées d'autonomisme qui n'ont recueilli qu'un nombre de suffrages dérisoires lors de scrutins successifs.
Il reste encore 16 clients dans l'hôtel, en compagnie des membres du commando autonomiste dirigé par Marcel Lorenzoni. Vers 14h30, après la prise de parole du ministre de l'Intérieur, l'un des clients est libéré. Devant les journalistes, il lit une courte déclaration. C'est l'indignation qui succède à la peine, à la suite de la déclaration qu'a faite M. Bonnet aux informations de 13h. Une chose est de ne pas céder à la violence. Encore faut-il ne pas la provoquer. Comme tous les clients de l'hôtel libéré jusque-là, il affirme avoir été bien traité et se trouver face à des militants sûrs d'agir pour une cause légitime. Puis, Edmond Simeoni prend la parole.
Malgré les commotions que connaît ce pays, la répression attestée par l'arrestation de nombreux jeunes Corses, nous constatons que le pouvoir central est totalement inapte à saisir la réalité et la complexité de nos problèmes et qu'il s'obstine dans une attitude de fermeture qui conduit à des affrontements parfaitement regrettables. Nous pensons que la Corse nouvelle est à construire non pas sur des décombres, mais dans une volonté réciproque et fraternelle, mais il faut encore que l'un des deux partenaires, le pouvoir central à l'occasion, s'y prête. Il n'en est pas question pour lui et vous avez des affrontements extrêmement graves. Et nous sommes extrêmement préoccupés par les propos de M. le ministre de l'Intérieur qui, à cette inquiétude de la Corse, répond par l'envoi supplémentaire de forces alors que la Corse entière se mobilise pour préparer demain, dans le calme, la dignité et la détermination, une grève générale avec une journée île morte. Je formule le vœu qu'il n'y ait plus de sang versé.
Déjà 5 jours que la Corse est chauffée à blanc. La nuit qui vient fait craindre le pire. 11 autonomistes ont déjà été transférés à Paris en avion militaire pour être déférés devant la Cour de sûreté de l'État. On ne sait pas, à ce moment-là, quand les forces de l'ordre vont passer à l'offensive et tenter de déloger les membres retranchés dans l'hôtel. Une atmosphère de siège s'est emparée d'Ajaccio. On parle de 3000 membres des forces de l'ordre répartis dans la ville. Gendarmes mobiles, CRS, tireurs d'élite, policiers, tout le monde est sur le pont. Et un mot d'ordre circule, ce soir, restez chez vous. Une fois encore, avec cet épisode, les Corses se sentent mal aimés du continent. Et cette fois, les actes sont commis sous les yeux des journalistes parisiens. On commence à lire dans certaines colonnes qu'il pourrait bien y avoir 2 poids 2 mesures dans la manière dont sont traités les terroristes du FLNC et ceux de Francia. Dans La Croix, le journaliste Yves Pittet écrit « On peut se poser la question de savoir pourquoi on a trouvé les responsables de nombreux attentats autonomistes et réussi à démanteler les séparatistes du FLNC. Mais pourquoi on a totalement échoué dans la recherche des agressions signées Francia ? Et le fait que les autorités refusent toute tractation, même après la nuit passée, n'est pas pour leur donner tort. » Ce soir-là, en Corse, du côté de Bravone, un viticulteur entend frapper à la porte. Il s'appelle Jean-Charles Dumont. Il ouvre et tombe nez à nez sur quatre encagoulés. C'est un nouveau rapt, signé FLNC, qui déclare « Nous avons le colonialiste fasciste Dumont. Son jugement sera fonction de ce qui arrivera à nos frères à Ajaccio. » La situation s'envenime. Mais ce que les preneurs d'otages ne savent pas, c'est que l'issue est proche du côté de la rue Fèche. Car à 1h30, un client de l'hôtel apparaît sur le trottoir, un carré de drap blanc à la main. Christian Lorenzoni, le frère de Marcel, tente une dernière fois d'exiger la tenue immédiate d'une conférence de presse. Dehors, un jeune homme sort des rangs de la police, un dénommé Paul Baril. Il annonce que sur le toit, une négociation est en cours entre son collègue du GIGN, Christian Proutot, et Marcel Lorenzoni. Peu après, le commandant Proutot raconte.
Je me trouvais près de l'endroit où il essayait de sortir. Il a remarqué bien évidemment que nous étions là. Et immédiatement, le dialogue a commencé. Nous avons commencé à parler. Je lui ai dit qui j'étais assez fermement, lui présentant le dispositif que nous avions, toutes les possibilités que nous avions par rapport aux siennes. J'ai utilisé comme argument qu'il n'avait aucune chance et que s'il le voulait, en rendant ses armes, il pourrait faire quelque chose qui éviterait que le sang coule une nouvelle fois. Il a été d'accord. Dans la rue, il s'est avancé également seul, sans armes, et dit « bon, voilà, nous tenons tout, mais j'avance sans armes pour te montrer que je suis capable de venir auprès de toi ». Et de proche en proche, mes hommes sont descendus avec moi à chaque étage. On se faisait remettre les munitions des hommes et on a mis au point le dispositif qui permettait la sortie. Nous encadrions à ce moment-là son groupe et nous l'avons amené à la police judiciaire.
Autrement dit, une sortie par le haut, tant que faire se peut. Grâce aux capacités de négociation du capitaine Proutot, parachutiste comme Marcel Lorenzoni, il a été permis aux autonomistes de se rendre de manière, disons, honorable. Alors, en groupe, drapeau à tête de mort brandi, la troupe s'engage dans la rue en entonnant Sonate Lucornu, un chant traditionnel de rébellion. Une belle sortie, en vérité impressionnante même. Les forces de l'ordre découvrent qu'ils étaient en fait 38 militants retranchés. Et tous marchent, sans sourciller, en direction du commissariat central d'Ajaccio. Sur le perron, les fusils et les carbines de chasse, dont les munitions ont été déjà récupérées dans l'hôtel par le GIGN, sont déposés. Et comme sur un quai de gare, les ravisseurs embrassent leurs otages, les 10 clients restants, qui ne sont pas traumatisés par l'expérience.
Ben, le dialogue, il était permanent, même si nous ne le souhaitions pas, puisque nous en avions pratiquement toujours un avec nous qui venait nous entretenir des problèmes de la Corse et des problèmes fondamentaux qui avaient motivé leur action, en fait. Je pense que certainement ces gens-là sont des gens qui sont des gens qui nous ont semblé des gens raisonnables. Ce sont dans leur immense majorité des agriculteurs, de jeunes agriculteurs, et les problèmes qu'ils nous ont exposés, nous semble-t-il, étaient des problèmes certainement fondés. Et pour qu'ils en arrivent là, c'est que très certainement il y avait des raisons.
Mais c'est une demi-victoire pour les forces de l'ordre, car il manque toujours un otage. Alain Oliel, l'armurier capturé à Bastelica, était bien à l'hôtel. Il est lui aussi placé en garde à vue et incarcéré pour transport d'armes illégales. Mais pas de Bertolini à l'horizon. La Corse se lève ce vendredi 11 janvier en apprenant la nouvelle. L'hôtel Fèche a été évacué sans effusion de sang. Tout le monde est derrière les barreaux. La trentaine d'autonomistes s'apprête à être évacués vers Paris pour être déférés devant la Cour de sûreté de l'État. Mais du côté de Bertolini, aucune piste ne se dessine. Ni le vendredi, ni le samedi, jour des obsèques des deux jeunes Corses tués par les forces de l'ordre. Entre-temps, le vendredi soir donc, le viticulteur a été libéré. Et l'on découvre que l'un des preneurs d'otages était le premier soi-disant client libéré de l'hôtel Fesch. Il faut attendre la nuit du samedi au dimanche pour qu'arrive un dénouement à cette histoire. C'est le maire d'Olmetto, un village au sud d'Ajaccio, qui en est l'acteur principal. Tard dans la soirée, son téléphone insiste. Alors il décroche, et au bout du fil, une voix qui dit « Nous avons l'intention de rendre Bertolini, à condition que ce soit le procureur de la République en personne qui vienne le chercher. Nous voulons que ce soit un maire corse qui le remette à un procureur corse. Acceptez-vous ?»« Entendu, » répond le maire, qui fonce à la mairie. Vers 1h30 du matin, dans le silence de la nuit, une portière claque. Lorsqu'il ouvre, c'est un Pierre Bertolini, yeux bandés par un foulard blanc au signe de l'union du peuple corse qui lui fait face. Le maire l'aide à s'asseoir, puis réveille le procureur pour qu'il vienne récupérer l'encombrante livraison. Autour d'un café, Bertolini, fumant cigarette sur cigarette, confesse avoir été bien traité. Puis il ajoute « Vous savez, j'étais trop éloigné de la Corse. Il y a des choses que je n'ai pas saisies. Mais cette semaine, j'ai compris les motifs de ces jeunes. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour se faire entendre. Fin de la confidence. » Le procureur Xavier Pompeani, qui s'est bien déplacé seul, comme demandé, repart au cœur de la nuit avec le chef de Francia.
Il m'a indiqué avoir été emmené en deux endroits différents, certainement dans une zone rurale, et m'a affirmé avoir été très très bien traité depuis son départ de Bastelica.
Alors quel est le sort aujourd'hui du commandant Bertolini ?
Eh bien, aujourd'hui, le commandant Bertolini fait l'objet d'une information au même titre que M. O'Leil et sans doute M. Leonelli sera présenté au magistrat instructeur.
Leonelli, lui, est en cavale. Il ne sera pas retrouvé avant plusieurs mois. O'Leil et Bertolini sont incarcérés à Ajaccio et inculpés pour transport illégal d'armes. Mais la Corse reste chauffée à blanc. Plus d'une cinquantaine de militants sont incarcérés en région parisienne, beaucoup de jeunes agriculteurs. Les semaines qui suivent sont émaillées de manifestations pour dénoncer ces prisonniers politiques. Un an plus tard, devant la Cour de sûreté de l'État, Marcel Lorenzoni prend 4 ans ferme. Pour les autres, ce sont des peines de 6 mois à 2 ans. Lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir en mai 81, il prononce une amnistie générale pour tous les événements sociaux et politiques. Les autonomistes sont libérés. Bertolini, O'Leil, Leonelli, le tueur du CRS, mais aussi les gendarmes qui ont tué les jeunes Corses, Michel Linck et Pierre Marangoni, ne seront jamais poursuivis. Pire, France 3 Corse révèle que la famille de Michel Linck a réglé une amende pour procédure abusive réclamant justice pour leur fille et sœur tuées par un jeune CRS. Les comptes sont amèrement soldés pour cette année noire, ponctuée de nuits bleues. 1980 détient le record, avec 462 attentats recensés sur l'île. Et cette histoire n'y est certainement pas pour rien.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Bastelica, Fèche, direction Ajaccio, chez France Bleu, dans les locaux, les studios de France Bleu Ajaccio, nous attend Pierre Poggioli. Bonjour.
Bonjour.
Homme politique, écrivain corse et dirigeant historique du mouvement nationaliste corse. Alors, on va recueillir votre témoignage. Deux questions générales d'abord. J'ai utilisé, vous l'avez entendu, tour à tour, les termes indépendantiste, autonomiste, nationaliste, séparatiste, pour éviter les répétitions. Y a-t-il des nuances politiques entre ces quatre termes ou veulent-ils dire la même chose ?
Non, il y a des nuances quand même, hein, ouais. D'autant plus que maintenant il y a un mouvement indépendantiste qui s'est organisé, ce qui n'était pas aussi clair à l'époque où on était tous ensemble, plus ou moins. Nous, ce qu'on voulait, c'est poser le problème politique global et arriver à une solution politique de fond, hein, de décolonisation, et c'était un peu la stratégie du FLNC, et il y avait à côté, il y avait les autonomistes de l'Union du Peuple Corse, d'Edmond et Max Simeone.
Et donc, vous retenez, vous, le terme indépendantiste ?
Bah, à l'époque,
Qu'est-ce que vous voulez retenir ? Parce que c'est important pour nous.
Moi, je ne retiens rien du tout, parce qu'à l'époque, le FLNC prenait l'autodétermination et l'UPC prenait l'autonomie interne. Voilà. Mais on avait depuis plusieurs mois une convergence qui nous permettait d'essayer de ne pas se trouver en confrontation au niveau de ces termes, mais d'aller vers un sens unitaire pour arriver à des négociations globales sur le problème politique corse à Paris.
Qui est Francia ? Comment voyez-vous Francia ? Comment vous le définiriez-vous, ce groupe-là ?
Vous savez, Francia, il a été précédé par différents groupuscules, surtout après Aléria, qui ont connu une recrudescence assez importante. Et il y a eu énormément d'attentats contre surtout des autonomistes, puisqu'à l'époque, l'organisation publique n'existait pas. Il y avait juste les autonomistes qui avaient un parti légal et qui donc étaient connus. Et donc, beaucoup d'attentats ont visé leurs responsables, notamment Max Simeone et d'autres responsables. Il y a eu même des trucs très dangereux qui ont été faits contre les responsables de l'UPC. Donc, il y avait une guerre entre ceux qui revendiquaient, disons, la libération de la Corse ou l'autonomie de la Corse et des gens qui s'y opposaient. Et très vite, on a compris qu'ils étaient en relation avec des autorités. Hein. Je crois que lorsque vous citez Dominique Renucci, c'était le donneur d'ordre de tout ce qu'il faisait au niveau. Et Bertolini était, disons, l'homme d'action. Quoi. À l'époque, il était présent sur le terrain. C'est lui qui coordonnait les actions. Avec un policier aussi. Bon, je ne me souviens plus le nom. Bon. Mais bon, ils étaient très bien reçus à la préfecture d'Ajaccio. Et le préfet Vieille-Ucase couvrait tout ça. Quoi. Il faisait semblant de ne rien voir.
Pierre Poggioli, quel est votre rôle encore? Je veux dire, comment vous suivez cette affaire à l'époque?
Écoutez, moi je suis à ce moment-là recherché dans le cadre de la Cour de sûreté de l'État. Je suis censé être un des responsables du FLNC et c'est moi qui personnellement avertit Lorenzone qu'un commando de Franche allait monter au village pour l'enlever et l'assassiner en bateau. C'est moi aussi, avec d'autres, qui sommes en relation avec celui que nous avions infiltré, Leonelli, et qui était chargé de nous renseigner. Voilà. Ouais. Et il nous renseignait depuis plusieurs mois, il nous avait donné pas mal de renseignements, et là, il nous a averti qu'il y avait cette affaire qui se préparait, et donc nous avons pris contact avec Marcel Lorenzone et nous l'avons averti de tout ça.
Alors, pour nos auditeurs, je fais un rappel sur la Cour de sûreté de l'État, puisqu'elle n'existe plus. C'est une juridiction très particulière qui a été créée en 1963, après la guerre d'Algérie, pour juger les opposants politiques. Alors, c'est à la fois un tribunal correctionnel, une cour d'assises, presque un tribunal militaire, parce que la moitié des juges sont des militaires, choisis par le gouvernement, auxquels s'ajoutent quelques juges professionnels, là encore choisis par le pouvoir, et donc très proches de lui. Et donc, la Cour de sûreté de l'État sera supprimée en mai 81 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Alors, le récit qu'on a fait de cette affaire.
Il est très bien votre récit, vous avez dit en gros tout ce qu'il y avait. Ce que je peux ajouter par rapport à moi, puisque vous m'avez demandé qu'est-ce que c'était. Moi, j'avais été chargé par le FLNC de suivre l'affaire. Ensuite, une fois que j'ai été averti que le commando avait été intercepté, moi, je suis allé autour de Bastille, car j'étais là-bas en permanence. Nous avons envoyé des émissaires sur le terrain, nous étions renseignés sur tout, et effectivement, nous étions en relation permanente avec les gens qui détenaient Bertolini et l'autre. Quoi.
Voilà. Justement, je disais, le récit s'arrête à la résolution de la prise d'otage, mais en réalité, des manifestations ont suivi sur l'île, qu'ont provoqué ces événements.
Si vous voulez, à l'époque, il y avait quand même une période très dure d'affrontement en direct avec ce que nous disions, nous dénommions l'État français et ses services de police, de justice et de gendarmerie. Il y avait des arrestations tous les jours, il y avait la Cour de sûreté de l'État qui opérait des rafles en permanence, etc. Et donc, c'était une situation très tendue qui faisait que chacun espérait une issue favorable avant que d'autres graves drames ne se produisent. Et sur ce, sont arrivées les élections qui ont donné la victoire à François Mitterrand, qui avait promis l'amnistie, et qui avait promis la suppression de la Cour de sûreté de l'État, qui avait promis autre chose, un statut particulier pour la Corse. Et donc, lorsque François Mitterrand est arrivé, ça a été quand même un certain soulagement.
France Inter. Affaires sensibles.
Pierre Poggioli, nous allons écouter ensemble un court reportage d'une minute diffusé au journal d'Antenne 2 en 1981. Certains des inculpés ont poursuivi une grève de la faim et ce reportage montre ce sentiment qui doit être le vôtre aussi, hein, d'être face à une justice à deux vitesses, l'une très stricte avec les autonomistes, l'autre plus permissive avec Francia.
La solidarité corse à propos du procès est ambiguë. Cela veut dire que la population corse n'approuve pas dans son ensemble les idées autonomistes, loin s'en faut. En revanche, les Corses sont unanimes sur un point. Ils se demandent pourquoi on a gardé les autonomistes en prison, à Paris, ceux qui font la grève de la faim en particulier, alors que les anti-autonomistes, impliqués dans l'affaire de Bastelica, inculpés d'ailleurs, ont été remis en liberté.
Il y a actuellement chez beaucoup de gens en Corse un sentiment d'indignation tout d'abord, en raison de l'injustice de la situation qui a été faite, en particulier la libération des membres de Francia, Bertolini et Oliel, l'absence de toute enquête sur les activités de ce groupe, et parallèlement le maintien en détention des militants nationalistes impliqués dans l'affaire de Bastelica-Fesch.
Quand vous voyez que Bertolini et Oliel sont aujourd'hui en liberté provisoire et que les Corses qui les ont kidnappés à Bastelica se retrouvent en prison et en sont à leur 60e jour de la grève, que vont-ils devenir ces Corses ?
Vous partagez ce sentiment, Pierre Poggioli, j'imagine ?
Oui, bien sûr, mais il faut voir qu'à l'époque, le pouvoir de droite, le ministère de l'Intérieur, la préfecture, étaient très favorables aux gens qui affrontaient les nationalistes et les autonomistes de l'époque. Et donc, ils étaient plus portés à être cléments envers eux qu'envers les nationalistes qui jugeaient coupables de crimes d'atteinte à la sécurité de l'État et autres. Et donc, ça ne nous étonnait pas. Nous, on savait que de toute façon, la justice était à double vitesse et qu'il y avait des gens qui étaient plus favorablement jugés et considérés que nous ne l'étions, nous, les autonomistes et les prisonniers politiques de l'époque, et qui étaient nombreux d'ailleurs en prison et qui ont dû entamer des grèves de la faim au risque de se mettre en danger et qui ont dû lutter jusqu'au bout pour pouvoir sortir.
Et quel est votre regard sur le procès de cette affaire ?
Je crois que quand même, il y a eu une relative accalmie. Il faut voir que lorsque le procès arrive, il y a déjà une décantation qui se produit. Il y a déjà ce qu'on dirait, nous, en Corse, ou scapa-scap, c'est-à-dire tout le monde essaie de sauver sa peau parmi les anti-autonomistes. Hein. À l'époque, il y a un renversement d'ambiance. Les gens en veulent à la droite, en veulent à ses services, en veulent à la préfecture, etc. Et tout le monde attend une sortie par le haut avec l'arrivée, disons, de la gauche, qui n'avait jamais, durant toutes ces années, dirigé le pays. Et donc, les gens, avec les promesses qui avaient été faites pour la gauche, les gens commençaient à espérer une sortie par le haut.
Et cette gauche qui vous a donné le statut de la Corse sous Lionel Jospin, pour le coup, c'était pas sous Mitterrand, mais sous Jospin.
Non, le premier statut a été donné par le statut de fer.
Qui a pu changer les choses.
Le premier statut.
D'accord. Mais le statut décrété par le gouvernement Jospin a-t-il plus encore changé les choses ?
Je crois que Jospin n'a pas décrété de statut. Jospin était en pleine discussion. Malheureusement, Jospin a été trahi par ses amis, hein, notamment Chevènement et Toubiana, hein, qui ont présenté des candidats contre lui, ce qui lui a empêché d'être président de la République. S'il avait été président de la République, il aurait normalement continué les discussions qui avaient eu lieu, parce qu'il avait eu le courage de recevoir les élus, y compris nationalistes, à Matignon, et d'avoir une discussion à ciel ouvert, ce qui n'avait pas été le cas pendant des années.
Et donc, on pensait
ce qu'on appelle le processus de Matignon, on pensait qu'il pouvait aller très loin. Malheureusement, il a été stoppé à cause de la trahison des amis de Jospin qui l'ont empêché d'être président de la République.
Quelle place tient cette affaire que nous avons racontée aujourd'hui dans le processus autonomiste, dans le combat politique des autonomistes ? La première grande date, je pense, vous me dites si je me trompe, mais c'est Aléria, 75.
Aléria, ça a montré au monde entier qu'il y avait un problème, qu'il y avait un problème politique qu'il fallait résoudre. Mais Bastelica a montré qu'il y avait des gens qui ne voulaient absolument pas avancer dans le sens d'un règlement politique et qui étaient prêts à créer les conditions d'affrontement, y compris au sein de la population corse, pour ne pas discuter sur des problèmes qui étaient récurrents en Corse et qui par la suite seront toujours récurrents, malheureusement.
Alors concernant Francia, vous avez compris, soupçonné tout de suite ce groupe d'être lié au gouvernement, au contre-terrorisme, au SAC, à toutes ses officines, dès le début ?
Vous savez, l'organisation que je représentais à l'époque était infiltrée un peu partout. Il avait même des gens qui travaillaient à la préfecture, qui travaillaient dans les services police. Il y avait des policiers qui étaient avec nous, etc. Donc, on avait pas mal de renseignements. Il fallait faire le tri. Et c'est, par exemple, l'infiltration des Léonais découle de ça. C'est-à-dire que Léonais a réussi à nouer contact avec ces gens-là, à discuter avec eux, en rentrant en confiance avec eux. Il a obtenu des renseignements. Et donc, il nous tenait régulièrement au courant. De la même façon que lorsque il y avait les événements à Bastille, les gars, moi, j'étais non loin du village, j'étais au courant de tout parce que des gens faisaient le va-et-vient pour me renseigner, pour me dire, etc. Lorsque Léonel est parti, c'est le FLNC qui l'a exfiltré, qui l'a caché, qui l'a... Bertolini, ce sont des gens du FLNC qui l'ont récupéré, qui ensuite l'ont relâché, etc. Je crois que nous avions quand même un maillage qui, au fil du temps, était efficace et qui s'est montré efficace dans cette nuit. De la même façon que nous avions récupéré la personne qui avait tiré sur le CRS, etc., qui était recherché, etc., et nous l'avons mis à l'abri, etc. Donc, voilà. Donc tout ça, je crois qu'il y avait une situation vraiment, disons, explosive, et il y avait une organisation nationaliste qui était très présente, qui était très bien organisée, qui avait des soutiens partout, et qui était capable à un moment donné d'aller plus loin si les conditions d'un règlement politique n'étaient pas avancées, quoi. Ce qui n'a pas été le cas, sauf avec l'arrivée de François Mitterrand.
Je reviens sur un point de notre discussion après le procès. Vous me parliez d'un certain apaisement. Enfin, je rappelle, Michel Linck, tué par un jeune CRS, était psychologue scolaire dans une école, n'était pas lié aux émeutes. Sa famille a tout fait pour que l'auteur du tir soit jugé. Mais en revanche, à cause de l'amnistie, pour le coup, parfois il y a grâce à l'amnistie, là il y a à cause, ce ne sera jamais le cas. Ni pour le jeune homme tué à un barrage, Pierre Marangoni, et de même le commandant Bertolini, comme le manifestant qui a tué le CRS ne seront jamais jugés. Est-ce que pour vous, ce ne sont pas plutôt des feux mal éteints qu'un apaisement ?
Oui, mais vous savez, la Corse, il y a tellement de choses qui évoluent et vite, il y a tellement de situations qui changent. Je crois que ça, c'est, disons, la situation passée. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout ce qui se produit aujourd'hui et l'avenir. Je crois que, bon, c'est une page de l'histoire de la lutte du peuple corse, une page importante, avec tout ce que ça a entraîné, de bon et de mauvais. Ben, elle reste gravée dans la mémoire collective, disons, de la lutte du peuple corse. Mais maintenant, on n'est pas là pour essayer, disons, de se venger avec le recul et de souffler sur les braises de l'époque, quoi.
Bien, ben ce sera le mot de la fin, apaisé. Pierre Poggioli, merci. Je rappelle que vous êtes un politique, écrivain corse et dirigeant historique du mouvement nationaliste corse. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le groupe Francia en Corse. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.